Le jardin de la culture.
Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Jardin de la Culture. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une œuvre littéraire majeure du XVIIIe siècle, Les Liaisons dangereuses, roman épistolaire de 175 lettres, écrit par Pierce Chordelos de la Closse et publié en 1782. L'histoire raconte le duo pervers de deux nobles manipulateurs, roués et libertins du siècle des Lumières. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. Cet ouvrage est considéré comme un roman érotique, voire pornographique. L'éloignement physique des protagonistes est le fondement même de cette forme littéraire pour justifier les correspondances entre les personnages. C'est le manque qui entretient le désir et qui aboutit à une exaltation du désir. Selon Jean Rousset et Roland Barthès, le paradoxe de l'absence est qu'il rend la présence plus forte. Le livre emprunte au roman libertin son langage gazé, autrement dit une manière élégante de faire allusion aux réalités du sexe et du corps. C'est une réflexion sur la société du temps qui est en dépossession de son être, presque un discours rousseauiste sur les ravages de la civilisation et le rêve d'un retour à l'âge d'or, à l'état naturel et primitif, d'avant le langage. Cet ouvrage est considéré comme un chef-d'œuvre de la littérature française, bien qu'il soit tombé dans un quasi-oubli durant la majeure partie du XIXe siècle, avant d'être redécouvert au début du XXe siècle. Roman inscrit dans la tradition du libertinage des mœurs illustré par Crébillon fils, roman d'analyse psychologique dans la lignée de la nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau, il porte à un degré de perfection la forme épistolaire. Aucun élément n'est gratuit. Chaque épistolier a son style et la polyphonie des correspondances croisées construit un drame en quatre étapes au dénouement moralement ambigu. Il continue toujours à fasciner le lecteur et à susciter de nombreuses adaptations. Ce sulfureux roman est complexe aussi bien au niveau de sa forme, de ses personnages, que des questions philosophiques, sociales, voire même politiques qu'il peut soulever. Il s'inscrit dans une catégorie particulière. Il a longtemps été censuré et ignoré des manuels scolaires qui le trouvaient trop pornographique et sulfureux. Cela ne l'a pas empêché de fasciner des générations de lecteurs et a captivé bon nombre de cinéastes qui ont su lui donner sa place grâce à toutes les adaptations cinématographiques, Vadim, Miloš Forman, et qui lui ont conféré paradoxalement renommée, respectabilité, place au panthéon des grandes œuvres, des grands mythes ou de grands modèles. La première version destinée au cinéma a été réalisée par Roger Vadim en 1960, avec Gérard Philippe et Jeanne Moreau. Sous la pression de la censure, Malraux étant ministre de la Culture, le titre fut modifié et devint Les Liaisons dangereuses 1960. On en interdit la distribution à l'étranger. En 1988, Stephen Frears met en scène Dangerous Liaisons, les liaisons dangereuses, avec Glenn Close, Madame de Merteuil, John Malkovich, le vicomte de Valmont, et Michelle Pfeiffer, Madame de Tourvel. Le scénariste Christopher Hampton avait déjà tiré une pièce à succès du roman de la Closse. En 1989, Miloš Forman propose Valmont une libre adaptation du roman avec un scénario de Jean-Claude Carrière, avec Colin Firth, Annette Bening et Meg Tilly. Plus récemment, en 1999, est sorti « Cruelle intention » de Roger Crumble et sous son titre subjectif en français « Sexe intention ». Cette dernière version est plus moderne et revisitée puisqu'il s'agit d'une transposition de l'histoire dans notre époque et dans un milieu adolescent. C'est le premier long-métrage de Roger Campbell en tant que réalisateur et scénariste. Il est déjà connu à Hollywood comme scénariste, on lui doit notamment Dumb and Dumber, Kingpin, National Lampoon Senior Stripped. Comme dans l'œuvre originale, Valmont et Madame de Merteuil se livrent à une compétition amicale et néanmoins acharnée. C'est à celui qui aura le plus de succès galant et le moins de scrupules. Peu importe les sentiments, seule la jouissance compte. Les conquêtes se succèdent de part et d'autre jusqu'à ce que Valmont rencontre la vertu incarnée, la belle Tourvel du roman ici nommée Annette Hargrove. Elle est belle, douce et chaste, en un mot, intouchable. Voilà une proie de choix pour Valmont. Saura-t-il relever ce défi sans tomber dans les pièges de l'amour ? Pour sa version cinématographique, Crumble fait le choix assez osé de faire de Merteuil et Valmont des demi-frères et sœurs, même s'il est vrai que beaucoup d'adaptations oublient l'idée que Merteuil et Valmont ne peuvent être vus ensemble. Mais ceci a l'avantage de faciliter leurs échanges. Autre dépoussiérage, l'histoire se déroule à Manhattan, au sein de la haute bourgeoisie américaine. Les protagonistes sont lycéens, ainsi les scandales de ce microcosmos de teenager a beaucoup moins d'ampleur que dans le livre. Les musiques très 90s rappelleront des souvenirs à certains et certaines d'entre vous. Elles sont tout simplement magnifiques. I am colorblind. Coffee black and egg white. Colorblind, This Love, The Verve, elles sont toutes aussi belles les unes que les autres. L'ambiance est très américaine et de nombreuses scènes sont tournées à New York. Les rôles féminins sont beaucoup moins passifs que dans les autres versions. Annette Hargrove notamment est beaucoup moins niaise que dans les autres adaptations. Elle est ici interprétée par Reese Witherspoon. On l'avait notamment découverte en 1991 à ses débuts dans Un été en Louisiane de Robert Mulligan. Elle a partagé la vedette avec Mark Wahlberg et William Peterson dans le thriller romantique Fear et avec Kiefer Sutherland dans Freeway, version moderne du Petit Chaperon Rouge. On a pu la voir également dans White Flower de Diane Keaton, Jack the Beer de Danny DeVito et Pleasantville de Gary Ross. Si elle se détache pas mal du personnage du roman, elle s'approprie parfaitement le rôle et petite anecdote, c'est sur le plateau du tournage qu'elle rencontre Ryan Philippe, son futur mari, avec qui elle aura deux enfants. Celui-ci incarne Sébastien Valmont. Il avait auparavant joué dans Playing by Heart aux côtés de Sean Connery et Gina Hylands. Pour son premier rôle au cinéma, il a été Jill Martin dans le film de Ridley Scott, L'âme de fond. Depuis, Ryan Philippe a tourné dans Little Boy Blue, 54, Nowhere, Homegrown et Souviens-toi l'été dernier. Le rôle de Catherine Merteuil est lui interprété par l'excellente Sarah Michelle Gellar. Vous l'avez découvert dans Souviens-toi l'été dernier aux côtés de Jennifer Love Hewitt, Freddie Price Jr. et Ryan Philippe. On l'a vu également dans Scream 2 avec Neve Campbell, David Arquette et Courtney Cox. Habituée de longue date de la télévision et du théâtre, Sarah Michelle Gellar est aussi la vedette de la série télévisée Buffy contre les vampires. Dans le reste de la distribution, on retrouve Selma Blair dans le rôle de Cecil Kindwell, qui a fait ses débuts en faisant la voix de l'amie de Sarah Michelle Gellar au téléphone dans le film Scream 2, et a même auditionné pour le rôle de Buffy contre les vampires. Elle apparaît à la télévision, puis au cinéma en 1997, où elle enchaîne les petits rôles comme dans In and Out, ou dans la comédie pour adolescents Big Party, portée par Jennifer Love Hewitt. Christine Baranski joue le rôle de Bunny Caldwell. Parmi ses rôles les plus connus au cinéma, celui de Catherine Archer dans l'acclamé Birdcage, mais aussi la belle-mère de Cendrillon dans Into the Woods, aux côtés de Meryl Streep. Sean Patrick Thomas incarne Ronald Clifford, il est surtout connu pour son rôle dans le film Save the Last Dance en 2001. Joshua Jackson, qui interprète Blaine Tuttle est notamment connu pour son rôle de Pacey Winter dans la série Dawson. Dans le roman, on assiste dans ce film à un entrelacement des différents personnages, entre dominants et dominés. Ce sont les forts contre les faibles, les plus séducteurs contre les plus pieux, l'expérience contre la jeunesse, les hommes contre les femmes. On retrouve également la complexité dans les relations de pouvoir entre les différents personnages. L'autre notion importante que l'on perçoit assez fidèlement est celle de la morale et l'aspect religieux, ce qui crée un véritable décalage avec les manipulations et les mensonges des deux libertins. On voit s'opposer le mensonge à la vérité, les passions à la raison de l'esprit. Enfin, fidèle à l'œuvre originale, le jeu de séduction opposant les libertins à leurs victimes et vice-versa, puisque ces mêmes personnages sont non seulement victimes des libertins, incarnés par Merteuil et Valmont, mais aussi de leurs propres pulsions. Au final, l'amour est un jeu auquel tout le monde perd, jusqu'à en mourir. Le film est rythmé et on se passionne pour l'ironie des situations, qu'ils soient libertins ou victimes. On notera également une scène finale sur la musique de Bittersweet Symphony du groupe The Verve qui accompagne parfaitement l'histoire. On regrettera toutefois les modifications apportées à un final rendu davantage moralisateur et larmoyant, sans doute pour échapper à la censure. Ainsi, le rôle joué par un Valmont décédant par accident s'y voit ainsi minoré, tandis que la vengeance cadre mal avec le caractère contemplatif de Madame de Tourvel. Cependant, ce petit film élégant, finement dialogué et impeccablement interprété, vaut le coup d'œil. La mise en scène, les décors luxueux, la musique branchée contribuent à en faire un bon moment de cinéma. Après la sortie du film en 1999, le réseau Fox commande au réalisateur Roger Crumble une première version de 13 épisodes pour une série télévisée dans l'esprit du film. Intitulée Manchester Preps, elle devait être diffusée à partir de septembre 1999. Mais après le tournage de 3 épisodes, la chaîne annule la série avant même sa diffusion. Une scène avec un personnage ayant un orgasme sur un cheval aurait choqué le président de la chaîne, Rupert Murdoch. Les 3 épisodes ont donc été rassemblés, des scènes supplémentaires ont été tournées pour donner une fin à l'histoire et pour y ajouter des scènes plus explicites, et le projet est devenu un film sorti directement en vidéo en 2000 sous le titre « Sex Intention 2 ». Le film met en scène l'arrivée de Sébastien et le début de son jeu avec Catherine, quelques années avant les événements du premier film. D'autres acteurs sont engagés pour reprendre les personnages. Robin June interprète Sébastien, et Amy Adams reprend le rôle de Catherine. En 2004, un troisième volet réalisé par Scott Zeal sort directement en vidéo. Intitulé « Sex Intention 3 », il se déroule après le premier volet, mais ne met en scène aucun personnage des deux précédents films. Il est donc considéré comme un spin-off. Le personnage principal du film est Cassidy Merteuil, la cousine de Catherine, qui, comme cette dernière, semble avoir un certain goût pour la manipulation sexuelle. En 2015, la chaîne NBC annonce le développement d'une série télévisée faisant suite au film avec la participation de Roger Crumble, réalisateur des deux premiers volets. La série se déroule plusieurs années après les événements du premier film et mettra en scène Bash Kazé, le fils de Sébastien et Annette. Ce dernier vit en province avec sa mère et ignore tout de son père. Un jour, il découvre le journal de Sébastien et décide de partir à la recherche de Catherine pour en savoir plus. Sarah Michelle Gellar est la seule actrice du film à reprendre son rôle. On y retrouve donc Catherine, maintenant adulte et à la tête de la société Valmont International. La chaîne décide de commander un pilote, mais une fois ce dernier tourné, elle décide de ne pas commander la série, annulant le projet. Le premier film, Sex Intention, a reçu quelques récompenses notables, notamment celui de la meilleure actrice pour Reese Witherspoon, la meilleure musique originale, la meilleure bande originale, celui de la meilleure actrice pour Sarah Michelle Gellar, celui du meilleur baiser pour Sarah Michelle Gellar et Selma Blair au MTV Movie Awards en 2000. Celui du meilleur film dramatique, celui du meilleur méchant pour Sarah Michelle Gellar. sulfureuse, subtile, ambiguë et complexe, les liaisons dangereuses ont plutôt bien vieilli au final et ont su traverser le temps car elles restent très proches de nos obsessions et questionnements actuels. J'ai été ravie de partager avec vous ce nouveau coup de cœur culturel. Je vous laisse sur cet extrait musical et vous dis au revoir et à bientôt les ornithos.